Bon après-midi à tous et à toutes. On est plus après-midi qu'on l'était la semaine dernière, hein? Parce qu'on a une heure, qu'on a reculé d'une heure. Écoutez, la parole nous dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 90 pseudo-justes qui croient ne pas avoir besoin de repentance. Alors, c'est un grand jour que nous vivons donc aujourd'hui, avec Daniel qui va venir officiellement professer sa foi. La conversion, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça soudainement, d'une fraction de seconde à l'autre. Hein, ça se bâtit. On voit d'ailleurs Timothée, qui depuis son enfance avait grandi dans les voies du Seigneur et qui à un certain moment a posé le geste et il est devenu un très bon ministre du Seigneur. C'est un petit peu ce que notre frère Daniel a vu qu'aussi, ayant grandi dans un foyer chrétien, ayant reçu toutes les injonctions du Seigneur, ayant eu un bel exemple familial également, comment ça fonctionne faire le Seigneur. Et le Seigneur a utilisé tout cela pour toucher son cœur et en faire ce qu'il est aujourd'hui. C'est quelque chose, un baptême. C'est tellement quelque chose, un baptême. C'est la manifestation visible de ce qui se passe dans l'invisible. Il existe ce qu'on appelle une Église universelle, hein? L'Église invisible. On appartient à l'Église invisible comment? Lorsqu'on naît du Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque l'Esprit vient habiter en nous. Et qu'il nous convainc et qu'il vient habiter en nous, de facto, on devient membre de l'Église universelle. Mais il y a une manifestation visible à cela, et la manifestation visible de l'Église universelle, c'est l'Église locale. Et la manifestation visible du baptême du Saint-Esprit, ben c'est le baptême d'eau. C'est le baptême comme notre frère Daniel va avoir aujourd'hui. Vous savez, le baptême, c'est pas quelque chose d'hyper mystique, là. Hein? C'est quelque chose de grand. Cependant, on va en parler davantage tout à l'heure, mais nous baptisons les gens sur une profession de foi. Est-ce qu'il y a une autre base sur laquelle on peut baptiser les gens? Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre base sur laquelle on peut baptiser les gens? Ah ben, il y a la profession de foi de tes parents, il y a la profession de foi de ton parrain, non? Tous les sacrements, il y en a deux, baptême et communion, trouvent leur effet exclusivement dans la mesure où ils sont reçus par la foi. C'est la dynamique qui fait en sorte qu'un sacrement prend toute sa puissance. Alors, comment est-ce qu'on baptise les gens dans cette Église? Comment est-ce qu'on reçoit les demandes de baptême des gens? Très, très simplement. On baptise les gens sur une profession de foi crédible. On leur demande pas de lire toute la bibliothèque de Saint-Pierre de Rome ou je ne sais trop quoi d'autre, n'est-ce pas? On leur demande simplement qu'ils puissent avoir une bonne compréhension de ce que le Christ a fait dans leur vie et qu'on puisse voir cette compréhension-là se manifester d'une façon ou d'une autre dans leur vie par la fidélité à l'Église, par leur assemblée de prière, par leur amour pour les saints. Et ça prend pas 40 ans pour ça non plus. Vous voyez, c'est plutôt simple, mais c'est quand même tout là. Et c'est comme ça qu'on vient au baptême et qu'on devient membre du corps visible du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un grand moment, à mon avis, pour l'Église de la Trinité. C'est notre deuxième baptême, si je me souviens bien, de l'histoire de notre Église. Le premier, c'était, comment elle s'appelle, maman? Émilie. Vous vous souvenez d'Émilie? On l'avait baptisée à l'Armée du Salut, hein, au siècle dernier. Ah oui. C'est le troisième. Qui a été le deuxième? OK, j'y étais pas. C'est un faux baptême. Non, je plaisante. Non, j'y étais pas là à ce moment-là, mais on rend grâce au Seigneur, effectivement, pour le fils de... C'est le fils de Daniel, hein? Ouais. Un très, très gentil garçon. J'ai eu le plaisir de le rencontrer de toute manière. Cet après-midi, il n'y aura pas de prédication. Faites du bien entendre ça, hein? Aussi, une prédication, ça va être davantage une méditation. Parce que la prédication, c'est Daniel qui l'a fait aujourd'hui. C'est Daniel qui l'a fait par sa confession de foi et par son geste, par son activité d'immersion et d'émersion de l'eau. Je regardais tout à l'heure... Le baptistère, je pense qu'on peut appeler ça un baptistère. Hein? J'imaginais un peu quand il y en a baptisé 3, 4, 5 000, à un moment donné, dans la même journée. Wow! Hein? Ça a dû être une grosse journée. Mais bien sûr, on les baptisait dans la rivière. Il y avait plus d'espace, il y avait plus de baptiseurs. Mais je trouvais que ça avait beaucoup d'allure comme baptistère portatif. De toute façon, ce n'est pas ce qui importe vraiment, en même temps qu'on essaie de faire les choses de manière décente. Donc, il n'y aura pas de prédication comme telle aujourd'hui. Ça va être une méditation. Une méditation sur, parce que comme je le disais, c'est Daniel dans son engagement qui va nous prêcher, parce que le baptême, c'est un engagement. C'est pour ça qu'on baptise les gens sur leur confession de foi. C'est un engagement d'une bonne conscience. Si on n'est pas conscient, comment peut-on engager notre conscience, voyez-vous? Le sacrement, c'est une leçon d'objet. C'est pour ça que je dis que c'est Daniel qui va prêcher. C'est une prédication visuelle. Quand Daniel va donner son témoignage tantôt et qu'il va aller le confirmer d'une manière visible par le baptême, il va effectivement nous prêcher la bonne parole du Seigneur. Donc, cet après-midi, je vous propose de répondre à la question « Qu'est-ce que le baptême? » On appelle ça un examen de révision, pour ceux qui le savent déjà. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi est-ce que Daniel se fait baptiser? Est-ce qu'il a fait une inspection de l'eau et s'est rendu compte que c'était de l'eau magique ou de l'eau bénite ou je ne sais trop quoi d'autre en disant « je vais tremper dedans » ou s'il croit que c'est une simple cérémonie? Pourquoi est-ce que Daniel se fait baptiser? Pour être au clair sur la question, je nous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 22. Nous allons concentrer sur le verset 21, mais on prend le contexte un peu pour une meilleure intelligence du texte. 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la parole de Dieu se prolongeait ou lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre seulement de personnes furent sauvées, c'est-à-dire 8, ils furent sauvés à travers l'eau. Comment est-ce que l'Esprit de Christ prêchait à ce moment-là aux esprits captifs qui étaient déjà captifs de leurs péchés? Il prêchait par la bouche de Noé, qui prêchait certainement la repentance. Noé le juste, nous est-il rapporté, tout du long de la construction de l'arche, ça a pris quand même 120 ans, tout du long de sa vie, prêchait la repentance à Dieu. Ça nous donne un tout petit peu une idée du contexte. Il leur prêchait qu'il y a un jugement qui s'en venait et il exhortait les gens à la repentance. Maintenant, le verset qui va nous occuper aujourd'hui. Cette eau, l'eau du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Puisse le Seigneur nous donner sa grâce, alors que nous allons simplement survoler rapidement ces quelques vérités qui nous sont énoncées dans ces versets-là. En pédagogie, on dit toujours que nous savons que nous avons vraiment enseigné si une personne, en se bouchant les oreilles, a pu recevoir mon enseignement uniquement par le visuel, par les illustrations que j'ai données. Ou encore, s'il a pu recevoir les enseignements en se fermant les yeux et uniquement en recevant ce qui a été dit. Le message devrait être assez clair pour que l'un des deux sens colporte le message. Bien sûr, l'enseignement idéal, c'est d'avoir l'audiovisuel. C'est d'avoir et les yeux et d'avoir et les oreilles. Et dans cette perspective-là, la parole de Dieu, elle est sans pareil. Elle est un bel exemple. Et nous avons un bel exemple ici dans cet enseignement sur le baptême où nous retrouvons trois éléments qui seront mes trois points de cet après-midi. Premièrement, nous allons voir le baptême défini. Dans un deuxième temps, nous allons voir le baptême illustré. Je recommence à zéro. Premièrement, nous allons voir le baptême illustré. Deuxièmement, nous allons voir le baptême corrigé, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas. Et troisièmement, nous allons voir le baptême défini, ce qu'il est. Premièrement, le baptême illustré, versets 18 à 21, qu'on vient de lire, et on va juste relire le verset 21 pour être bien au parfum. « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des péchés. Cette eau était une figure du baptême. » Voici donc que Pierre, sous la direction du Saint-Esprit, dirigé souverainement par l'Esprit de Dieu, nous fait une présentation PowerPoint. C'est littéralement le cas. Il nous présente des images d'horreur, pour ainsi dire. La première diapositive qu'il nous montre, ce sont des gens qui sont littéralement en train de mourir, en train d'être ensevelis sous un baptême, littéralement, un baptême d'eau, sous un déluge d'eau. Alors, vous regardez la diapo, vous regardez, et là, vous voyez des gens en train d'essayer de grimper dans les arbres, de fuir la montée constante de l'eau. Certains montent sur le toit de leur maison, il y a un jugement qui vient de tomber, et on essaie d'y échapper. On n'a qu'à penser, on a eu quelques déluges ici au Québec, dans le passé, on en voit souvent dans les nouvelles à la télévision, et le cœur nous serre. Quand on voit les gens là aux prises avec l'eau qui vont se faire submerger, ben c'est précisément l'image que l'apôtre Pierre nous donne ici. Un véritable spectacle d'horreur alors qu'une pluie torrentielle tombe sur toute la surface de du sol, de sorte que ça couvre même les montagnes. On peut voir les gens crier au secours, espérant que la pluie va cesser, mais rien ne cesse et tout le monde est englouti et nous avons un second départ pour la création. On dit souvent qu'on vient d'Adam, il y a une hérédité, mais on peut être sûr qu'on vient de Noé, parce que le nouveau départ est passé par là également. Alors, il y a un jugement préfigurateur. L'apôtre nous dit que ce jugement-là, le déluge, c'est un jugement qui préfigurait ce qui s'en venait. Dieu qui va évacuer, passez-moi l'expression, qui va littéralement flusher toute existence terrestre, ou presque, parce qu'il y a une deuxième diapositive. Et dans la deuxième diapositive, ce qu'on voit à la surface de l'eau, parce que la terre était devenue une mer, on voit une toute petite arche. Toute petite arche avec 8 personnes dedans, qui flotte allègrement, avec tout un zoo à l'intérieur, parce qu'il y avait des représentants des animaux de la terre, n'est-ce pas, qui étaient dans l'arche avec Noé, son épouse, ses fils et l'épouse de ses fils. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir cette petite arche-là qui s'en va avec ses 8 personnes en toute sécurité au-dessus des eaux. Et bien sûr, la pensée qui nous vient, c'est bienheureuse ces âmes qui échappent ainsi au jugement alors que le reste de l'humanité connaît une fin atroce. Bienheureux, ces quelques âmes qui échappent au jugement alors que le reste de l'humanité connaît une fin atroce. Il y a un contraste, on ne peut plus frappant, entre le très petit nombre de personnes sauvées par les eaux destructrices du jugement et le nombre de personnes qui ont péri. Un contraste énorme. Il n'y a aucune mesure, on ne peut pas raconter, on ne peut pas mesurer ça de manière quantitative. Et Pierre nous dit au verset 21 que cette eau-là était une figure. Le mot grec, c'est « antitoupos », qui a donné en français « antitype ». C'est-à-dire que c'était une image de quelque chose qui s'en venait. Ça préfigurait le jugement dernier. Et aussi vrai que c'est arrivé à l'époque, aussi vrai le jugement dernier qui s'en vient va arriver également. Alors, c'était une figure, dit-il également, du baptême, ce désert-là. On serait attendu à ce que Pierre nous dise que Noé et sa famille ont été sauvés par l'arche, sauvés des eaux qui les préservaient de la noyade. Bon, bien sûr que c'est sous-entendu, l'arche les a sauvés de la noyade, d'être submergés, mais ce n'est pas la manière dont l'apôtre nous dit que c'est arrivé. Au verset 20, troisième partie du verset 20, il nous dit qu'ils furent sauvés non pas de l'eau, mais au travers l'eau. Vous voyez la nuance, hein? Sauvés de l'eau, bon, ils ne sont pas allés à l'eau, mais l'eau du déluge leur tombait dessus, autant qu'elle tombait sur tout le reste des perdus de la terre. Oui. Le jugement de Dieu est tombé sur eux également, mais il y avait au sein du jugement une protection pour la famille de Noé. Et cette protection-là, ben, c'était simplement l'arche que Dieu avait demandé de construire. C'est-à-dire que l'eau du jugement est tombée universellement sur Noé, sur tous les hommes, mais une distinction vitale, fondamentale, venant de la grâce de Dieu, s'est interposée entre Noé et ses contemporains déchus. L'arche sauve Noé, elle le sauve des eaux du jugement divin, elle le sauve de la persécution et elle le sauve, bien sûr, du ressentiment des impies qui, pendant tout le temps que Noé prêchait, tout le temps de sa vie, tout au long même de la construction de l'arche, pendant les 120 ans, devait se moquer de lui. Qu'est-ce qui arrive avec le bonhomme Noé? Qu'est-ce qu'il fait là à construire son arche? Quel est ce discours qui nous tient qu'il y a un jugement qui vient? Nous sommes de bonnes personnes, on mène des vies à peu près normales, on aime notre voisin, on va au travail correctement, on est presque honnête. Qu'est-ce qu'il y a à raconter qu'on a besoin de se repentir? Alors pendant toutes ces années-là, Noé leur disait non. Il vous faut la justice de Dieu, parce que c'est la seule justice acceptable. Le baptême correspond donc à être sauvé à travers les eaux. Tout le monde est à peu près unanime aujourd'hui pour admettre que le baptême au temps de Pierre se faisait par immersion. On le retrouve d'ailleurs dans les baptistères de l'époque où c'est fait par immersion, on voit que c'est creusé dans la pierre et c'est fait par immersion. L'image est donc la suivante. L'immersion dans les eaux du baptême symbolise aller à la mort. Ceux qui étaient immergés par l'eau allaient à la mort. Hein? Cependant, qu'en ressortir veut dire avoir été préservé à travers les eaux du déluge. C'est ça l'image que Pierre veut nous donner. L'eau du baptême, c'est donc une figure des eaux du jugement. Semblable aux eaux du déluge, en nous montrant que ce que nous méritons pour nos péchés, hors de la grâce de Dieu en Christ Jésus, c'est effectivement le jugement, hein? Mais en Christ Jésus, nous avons l'arche de notre salut. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, je pense que c'est une portion d'écriture très importante sur la question du baptême. Ignorez-vous que nous avons tous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Prenons en considération que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes baptisés en Christ Jésus. C'est pour ça que la grande question qui se pose constamment, quand les gens sont baptisés, est-ce qu'ils sont en Adam ou ils sont en Christ? Est-ce qu'ils sont encore dans le vieil homme ou ils sont devenus des hommes nouveaux? C'est ce que Daniel va nous dire tantôt, s'il est devenu un homme nouveau. Alors, il est extrêmement important de garder cette portion d'Écriture-là à l'esprit. Qu'est-ce qu'on baptise? Et il n'y a pas d'exception. On ne peut pas dire, bien, dans l'Ancien Testament, ça se faisait différemment. Il y avait la circoncision. On sait qu'Abraham a eu deux générations, l'une qui était en Adam, puis l'une qui était en Christ. C'est pas tout le monde dans l'Ancienne Alliance qui était sauvé, mais certains l'étaient par la foi. Alors, comme on dit souvent, entre baptême et circoncision, they are in-laws, but they are not brothers. Je m'excuse de le dire en anglais, là. Ils sont peut-être beaux-frères, mais ils ne sont pas parents. Hein? Ils ne sont pas frères directement. Le baptême nous montre donc clairement dans un sens que nous sommes morts, si on est croyant, et ressuscités avec Christ, que nous sommes sortis vivants des eaux du jugement. Comme Noé a trouvé refuge dans l'arche, ainsi le croyant trouve son refuge en Christ Jésus pour échapper au jugement. Voyez-vous comment le jugement de Dieu opère? La même eau du jugement qui a détruit l'impie, qui a détruit l'incrédule, cette même eau sauve et soulève l'arche dans laquelle est abrité le croyant pour l'amener plus près de Dieu. C'est exactement la même eau, c'est exactement le même jugement, mais avec un effet contraire à raison de la foi qui est en ligne de compte ici. Et ça nous amène à mon deuxième point, le baptême corrigé. Verset 21 nous dit ce qui suit. « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Pierre, maintenant, va nous dire ce que le baptême n'est pas. Certains pourraient, à la lecture de ces versets-là, être portés à croire que le baptême sauve. Hein? Le texte dit « le baptême qui vous sauve ». Si on est littéral, on est littéraliste même, sans tenir compte du contexte, on croit effectivement que le baptême sauve. D'ailleurs, il y a une certaine faction du christianisme qui croit que quelques gouttes d'eau, un mini déluge, un anneau déluge, hein, quelques gouttes d'eau sur la tête vont effacer le péché originel. Qu'il y ait quelques gouttes d'eau ou qu'il y ait des tonnes d'eau, ça n'efface pas le péché originel. Le baptême ne sauve pas, il figure, il illustre quelque chose. Comme on dit dans une certaine faction du christianisme, c'est la manifestation extérieure d'une grâce qui a eu lieu, qui a eu cours à l'intérieur. Donc, il y a une certaine faction qui croit que l'eau du baptême sauve. L'eau ne possède aucune vertu particulière pour sauver ou transformer qui que ce soit. Le baptême est un signe. Et qu'est-ce que ça fait un signe? Ça signifie. Un signe signifie quelque chose, oui. Il signifie, un arbitre au hockey, par exemple, qui lève la main et qui porte son sifflet à la bouche, est en train de signaler quelque chose, soit une pénalité ou quelque chose d'autre. Hein. S'il ne s'est rien passé du tout, il a beau lever la main, il a beau siffler, n'est-ce pas, c'est complètement vide, il n'y a aucune signification possible à cela. Alors, l'enseignement de ce verset, c'est ceci, c'est la relation entre le signifiant et le signifié. Qu'est-ce que le baptême signifie en lui-même? Et qu'est-ce que le baptême va maintenant signifier pour le baptisé, pour celui qui traverse les eaux du baptême? Immersion et émersion. Mort avec le Christ, ressuscité avec le Christ. Galates, chapitre 3, verset 27, nous dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Le seul baptême qui sauve, passez-moi l'expression, c'est un baptême sec. Hein? Avant le baptême d'eau, c'est un baptême sec. C'est le baptême spirituel dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous citer à nouveau Romains chapitre 6, versets 3 à 6. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Bon, il y aurait énormément à dire là-dessus. Il ne faut pas croire que lorsqu'on s'engage pour le Christ, qu'on engage notre conscience, hein, et qu'on a vraiment compris notre besoin, qu'à partir de cette seconde précise, on arrête complètement de pécher. On va être des pécheurs jusque dans la gloire. Hein. Comme on dit souvent, vous connaissez les trois P de l'histoire de la rédemption, notre triple délivrance, délivré d'abord du péché, hein, délivré de la puissance du péché, c'est la justification, délivré très progressivement de la puissance du péché sur notre vie, ça c'est la sanctification, et délivré, lorsque nous sommes dans la gloire, de la présence même du péché, ce à quoi nous aspirons. Mais d'ici là, nous continuons à lutter constamment contre le péché. Pourquoi? Parce que nous prenons plaisir à la loi de Dieu. La première chose qui se produit à la conversion, vous savez, c'est un changement de disposition intérieure. Lorsqu'on est converti, là, on mange par la bouche, on marche sur deux pieds, comme on faisait la veille. On réfléchit encore comme on faisait la veille, mais on a une nouvelle disposition intérieure. On se met à aimer les choses du royaume. On se met à aimer la parole de Dieu. Hein, on se met à aimer ses commandements. On se met à avoir un désir d'être avec ceux qui pensent comme nous. Ça, ce sont des signes. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Hein? Ce sont des signes qui ne manquent pas qu'une réalité de la vie chrétienne s'est opérée en nous. Donc, la cérémonie du baptême, sans la foi qui l'accompagne, n'est absolument d'aucun mérite, d'aucun bénéfice. Vous savez, des gens qui vont à la piscine chaque jour. Si vous êtes comme moi, moi, je prends ma douche chaque jour. Ça ne m'enlève pas mes péchés. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau. C'est d'aucun bénéfice. Hein? La question du baptême, elle est autre que l'eau dans laquelle nous plongeons. Alors, Tite, chapitre 3, verset 4-5 nous dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain hein, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Quand on pense à ce verset-là et qu'on revient au déluge qui le préfigurait, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par ce que nous sommes. Les gens du déluge qui disaient toujours « on n'a pas besoin de l'arche », excuse, « on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, j'ai un petit canot, j'ai une petite chaloupe, ça va faire le travail. Je vais monter dedans puis je vais ramer. Avec mes propres efforts, je vais survivre au déluge. » Il survivrait, mais pas très longtemps. La parole est d'une clarté cristalline là-dessus. Personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Alors, nos propres œuvres, là, j'étais gentil avec mon voisin, je fais des bonnes œuvres, j'essaie de remplir mon impôt correctement, je fais pas de mal, j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. C'est peut-être beau pour vous et pour le voisin, là, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas une justice acceptable d'aucune façon. La seule justice acceptable est celle que nous retrouvons en Christ Jésus, qui, lui, a pleinement accompli la justice de Dieu. Et c'est en lui qu'il faille aller nous réfugier. Donc, je suis sauvé par la grâce de Dieu, placé sous le parapluie de sa miséricorde, et j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà ce qui est signifié par le baptême. Donc, c'est l'eau du baptême en lien avec la parole de Dieu reçue dans la foi qui sauve. Sans cette expérience spirituelle, je pourrais être baptisé chaque semaine, ça n'aurait strictement aucun impact sur ma vie. Et ça nous amène à mon troisième point, le baptême défini. Pierre conclut son enseignement sur le baptême par une définition très, très synthétique au verset 21. « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ. Hein, » c'est parce que nous sommes en Christ et que le Christ est ressuscité que nous avons l'assurance de la résurrection. Et c'est bien sûr étroitement lié à ce qui précède. L'agent de purification dans le baptême, ce n'est pas l'eau, mais c'est le sang du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ appliqué aux croyants par le Saint-Esprit de Dieu, qui seul peut produire une bonne conscience. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a une bonne conscience? Comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'on a une bonne conscience? Rappelons-nous l'expérience de Martin Luther, le grand réformateur qu'on a célébré il n'y a pas si longtemps, là, lors de la fête de la Réforme. Il acceptait toutes sortes de techniques d'ascèse ou d'ascétisme, je ne sais pas quel mot on emploie, là, hein, de se meurtrir le corps pour tenter de libérer l'esprit et d'avoir la paix dans son cœur. Il dormait directement sur le plancher de sa cellule, sur le ciment, ça l'a même rendu malade. Il s'imposait toutes sortes de privations, il se flagellait. Dans certains monastères, on le fait encore aujourd'hui, en espérant que ça allait le délivrer, que ça allait le libérer. Et plus il le faisait, moins il y avait d'assurance. Lorsqu'il est arrivé en haut à Rome, de la Sancta Scala, là, les saintes marches qu'on monte à genoux, là, un petit peu comme certains le font à l'oratoire Saint-Joseph, il s'est levé, il s'est dit, « Je me suis levé et il n'y avait strictement rien de changé dans mon intérieur. » On ne peut d'aucune façon s'approprier la justice de Dieu par nous-mêmes. C'est l'œuvre miséricordieuse de notre Dieu. Jean en parle avec tellement de clarté, d'ailleurs, dans son évangile. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas par le sang, mais par Dieu Tout-Puissant qui nous fait ainsi miséricorde. Pierre conclut donc... J'étais rendu où, là? Est-ce que je lui dis, voilà ce qui est signifié dans le baptême? Si je ne l'ai pas dit, je vous le dis. C'est un engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu en Christ Jésus. Et c'est bien sûr étroitement lié à tout ce qu'on a dit précédemment. Hein? La bonne conscience, on était là effectivement. C'est Hébreux chapitre 9, verset 14 qui nous dit ce qui suit. Qui nous parle de libérer notre conscience des œuvres mortes. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Hébreux 10, 22 rajoute, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » c'est en s'approchant du Christ, c'est par la foi, c'est en recevant son œuvre parfaite dans nos cœurs. Une bonne conscience, c'est une conscience qui se sait pardonner. Non pas qu'elle se croit sans péché, non, elle n'est que trop consciente de son indignité. Le psalmiste de dire, psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? » On a beau tenter de la faire taire, la conscience, on a beau argumenter avec, on a beau lui sortir toute une série... Donc, une bonne conscience, c'est une conscience qui se sait pardonner, non pas qu'elle se croit sans péché. Elle sait très bien qu'elle est encore très pécheresse, cette conscience-là. Elle sait très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais elle a l'assurance qu'en Christ Jésus, elle a reçu le pardon du Seigneur. Alors, on a beau tenter de la faire taire, la conscience. Gloire à Dieu qui nous a donné une conscience, hein? On a beau dire qu'on peut l'endurcir, cette conscience-là, mais elle demeure là, un témoin de Dieu constamment pour nous, qui vient parler à notre cœur, qui vient parler effectivement à notre âme de ce que nous sommes. Romains chapitre 2, versets 14 à 15 nous dit, « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. » Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. La seule façon d'en arriver à une bonne conscience, ce n'est pas en tentant de nous justifier nous-mêmes. Quelle belle expression que celle-là, tenter de nous justifier nous-mêmes. C'est pas ma faute, c'est la faute de la manière dont j'ai été élevé. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ma tante Marthe, c'est la faute de mon oncle Arthur, c'est la faute de la culture, c'est la faute du milieu, c'est la faute de ma maladie, c'est la faute de la saison, c'est la faute de la température, c'est la faute à n'importe quoi sauf à moi. Lorsqu'on vient au Christ Jésus et que nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, on n'essaie pas de bouler la culpabilité sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit, mais on la prend pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Et on reçoit par la foi la justice du Seigneur Jésus-Christ. Une bonne conscience, qu'est-ce que Daniel, en se faisant baptiser aujourd'hui, est en train de nous dire cet après-midi? En fait, avant de nous faire une déclaration, il nous pose une question, Daniel. En gardant à l'esprit que le déluge est une figure du baptême, savez-vous quelle est la question qu'il nous pose? Une question très, très simple. Croyez-vous qu'il soit préférable d'être dans l'arche ou d'être dans l'eau? La réponse est tellement évidente. C'est exactement la question que Noé posait à ses contemporains lorsqu'il les exhortait à la repentance, à reconnaître leurs péchés et à venir à l'Éternel. Mais vous savez quoi? Si vous n'êtes pas venu au Christ Jésus, pour vous abriter dans cette arche du salut du Nouveau Testament, vous êtes dans l'eau. Vous n'êtes pas dans l'arche, mais vous êtes dans l'eau, sous le jugement de Dieu. Le seul endroit sécuritaire de l'époque, c'était l'arche que Dieu avait fait construire. Le seul endroit sécuritaire pour nous, dans le jugement qui s'en vient, c'est le Christ Jésus qui a porté les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Par son baptême, Daniel nous donne la réponse. Il nous dit, « Moi, j'ai choisi l'arche. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge, il n'y a pas beaucoup de gars et de filles de mon âge qui choisissent l'arche, mais je sais aussi que c'est là, dans l'arche seule, que se trouve ma sécurité. C'est le seul endroit qui m'abrite du jugement à venir parce qu'il y a un jugement à venir. » La parole en parle tout du long. Et tout ce qui est préfiguré avant va ne faire que culminer dans ce jugement final et éternel qui, on le sait, s'approche toujours de plus en plus à chaque seconde que nous vivons. Et la parole nous dit très, 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 très clairement, n'est-ce pas, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Merci. Qu'est-ce que c'est? Merci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu. Les portes de l'arche se sont fermées un jour, tôt ou tard. Pendant 120 ans, ça a duré. Et ça a duré encore, et encore, et encore. Chaque jour, les gens se levaient et voyaient Noé et ses fils continuer de travailler sur l'arche. Ils disaient, pauvre Noé, perd son temps, perd ses énergies. Il y a tellement d'autres choses à faire sur cette terre. Mais voilà qu'un jour, avant que les torrents commencent à s'ouvrir des cieux, que les portes se sont fermées. Et une fois que les portes se sont fermées, plus personne ne pouvait entrer. Ça se terminait ce jour-là. L'Épître aux Hébreux nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Les portes de l'arche du Nouveau Testament, qui est le Christ Jésus, elles aussi vont se fermer tôt ou tard. Et quand elles seront fermées, plus personne ne pourra y entrer. On a une belle parabole des noces qui nous dit qu'à un certain moment, les gens vinrent et cognèrent à la porte où se tenaient les noces, et Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, maudit, qui commettez l'iniquité. » C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut venir s'abriter dans la personne du Christ Jésus. Et c'est l'invitation que le Seigneur nous donne. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen.